Soleil d'un jour sur Radio Lac, c'est tous les dimanches entre 11h et midi avec Maurice Efti. Maurice, bonjour.
Bonjour, j'étais à 2300 mètres, l'air était vif et froid, les pins bougeaient doucement dans le vent, il y avait des hommes en noir, en blanc, des moutons partout. Nous sommes à Tchamoula.
Nous sommes à Tchamoula, Maurice. Où est-ce que ça se situe ?
C'est une bonne question parce que Tchamoula, ça n'est pas forcément connu. D'abord, c'est San Juan Tchamoula, Saint-Jean Tchamoula. C'est une communauté assez incroyable qui est véritablement une bulle à l'intérieur d'une soixantaine d'autres communautés avec une petite ville de 30 ou 40 000 habitants au départ. C'est San Cristóbal de las Casas. Nous sommes en pleine Sierra Madre, presque à la frontière du Guatemala, dans cet état qui fait beaucoup parler de lui depuis le XVIe siècle, les Chiapas. Et cette communauté Tchamoula, c'est une communauté totalement indienne, qui est vraiment isolée du monde, qui s'est isolée elle-même du monde. J'entends par là que, d'abord, il faut situer l'endroit. J'ai parlé de pain tout à l'heure, de vent, de froid. Dès qu'on est à plus de 2000 mètres d'altitude, il y a quelque chose de piquant la nuit, il y a quelque chose de trop chaud la journée. Et le Tchamoula, c'est un Maya, c'est un Indien qui s'est trouvé lui-même en marge de la société, de sa propre société indienne même, parce que finalement, ils étaient à la fois l'ennemi ou les ennemis de l'Espagnol, et qu'ils ont été maltraités dès le départ. Ils ont appartenu, si j'ai bonne mémoire, le village de San Juan Tchamoula se trouve pourtant à 10 km de la petite ville de San Cristóbal de las Casas, qui elle est une ville avec des trottoirs de 40 cm de haut, parce qu'il y pleut souvent dans une espèce de cuvette étrangement humide. Une ville qui était fondée par les Espagnols dans un endroit que les Indiens ont désigné, qui était sûrement le plus malpropre, le moins agréable de toute la Sierra Madre. Et cette ville a gardé ses toits de tuiles, son charme colonial, une petite station de montagne avec tous les aspects mexicains et puis un marché où se réunissent ces 60
justement,
communautés.
Justement, j'allais vous demander, ça vit de quoi ? Elle vit de quoi cette ville ?
Elle vit d'abord de l'exploitation de ceux qui sont autour d'elle, c'est-à-dire c'est une société métisse, c'est une société relativement blanche et qui ne vit pratiquement que sur le dos des centaines de milliers d'indigènes qui sont aux alentours. On est vraiment au cœur d'une poche indigène et il y a une minorité, là peut-être 1%, voire 1 pour 1000, qui essaye de tenir toute l'économie, tous les échanges, tous les intérêts, tous les bénéfices de cette étrange région qui vit de façon incongrue. La légende de San Juan Tchamoula, ou sa fondation, si vous voulez, est due à une réduction au départ. Ça avait été offert au secrétaire de Cortés, qui lui a écrit ses mémoires lorsqu'il était au Guatemala à l'âge de 90 ans. Et cet homme, en fait, Bernal Díaz del Castillo, ne s'est pas vraiment occupé de San Juan Tchamoula. Mais comme ils avaient été les ennemis, on les a réduits, c'est-à-dire qu'on les a compactés, si je peux dire. Et finalement, on les a obligés, comme toutes les communautés indiennes de la région, à porter un costume. C'est-à-dire que il y avait des costumes précolombiens, il y avait naturellement l'habitude de couper, ou plus exactement de tisser sans couper, je devrais être plus exact, des formes de sarape qui ressemblent à des ponchos. Les femmes portaient des chemises sans manches, de forme tout à fait rectangulaire. Et à Tchamoula, eh bien, il y a une sorte de symbiose qui va se créer à cause du nom de baptême de l'endroit. C'est-à-dire, Tchamoula, c'est le nom local, mais chaque village porte le nom d'un saint. C'est-à-dire que l'Espagnol a mis un patronage ou a mis en avant un patronage. Et ici, c'est San Juan, le San Juan Saint-Jean-Baptiste en fait. Et la légende est assez sympathique parce que selon les Tchamoula, ils ont créé une légende autour de la vraie légende et ils prétendent que c'était le premier homme et que Saint-Jean était de leur propre race et qu'il se serait retiré un jour pour prier. On connaît l'histoire du vrai Saint-Jean-Baptiste. Il a jeûné, il a fait pénitence et il se serait caché dans une vallée proche de ce village qui s'appelle Bohom. Et en l'occurrence, c'est une vallée qui était complètement déserte et on imagine bien un homme qui se trouve déprimé, qui est dans la solitude et qui finalement aurait tout à coup une révélation. Il aurait converti, on voit la scène, hein, c'est un Indien qui la raconte, il imagine le catholicisme, il l'invente au fur et à mesure et il y a un syncrétisme époustouflant. Un étranger qui arrive à Tchamoula ne comprend rien, il y a une sorte de ruche, de ferveur, de choses qui ne sont ni chrétiennes ni païennes. Et là, en l'occurrence, vous avez Saint Jean qui commence à convertir des pierres blanches et à l'endroit, tout à coup, on a autant de Tchamoula qui vont ensuite commencer à croître, à se multiplier, et puis Saint Jean leur enseigne comment cultiver le maïs. C'est une vraie légende maya en fait. et leur donne toutes les normes qui vont faire qu'ils seront des hommes véritables. Mais c'est une traduction du maya. Ces gens-là sont les seuls hommes véritables. Tout ce qui est en dehors est étranger et malsain. Et donc, ils créent déjà dans leur tête une sorte de territoire. Et finalement, on va comprendre à quel point ils se sont isolés à cause de cela. Quand un chamoula sort de chez lui, qu'il sort de sa commune, eh bien, il a vraiment besoin d'un passeport mental. C'est-à-dire qu'il va passer même des zones frontières où il y a des croix, des sortes de portes très curieuses et magiques. Donc son univers, c'est un immense plateau qui est séparé du reste du monde. Or, en fait, on a affaire à une zone très montagneuse. Et puisque c'est Saint Jean-Baptiste qui est leur patron principal, ce qui est curieux, c'est qu'on voit toujours Saint Jean-Baptiste en train de tenir l'agneau pascal. Et finalement, bizarrement, l'Espagnol va offrir aux Chamoula les avantages de l'Occident et le seul avantage qu'ils vont retenir. Ils ont leur maïs, ils ont leur agriculture locale qui pousse mal, qui pousse dans ces montagnes complètement érodées. Aujourd'hui, il n'y a presque plus de bois. Et on sent cette érosion dramatique comme ça qui fait que les territoires diminuent, que l'héritage, parce qu'ils sont en augmentation démographique, diminue aussi. On découpe ça en tout petits morceaux. On a plutôt l'impression qu'on est sur des petits jardins de rien du tout. Donc la survivance est très difficile. Économiquement, il y a des drames absolus, ils doivent sortir de chez eux pour aller à l'étranger, dans les terres chaudes, dans les plantations de café, pour pouvoir survivre, parce que leur économie est très curieuse. Et si je disais que Saint-Jean leur avait fait un cadeau, eh bien c'est celui qu'on voit encore finir de raboter le peu d'herbe qui reste, c'est le mouton. Et le mouton, ça va devenir l'apanage de Chamoula. Et quand vous voyez passer un Chamoula, il porte, parce qu'il fait froid ce matin, il y a encore de la brume. Oui, non seulement il porte la peau de mouton, mais en fait il porte un lainage, c'est-à-dire qu'il va prendre la laine de ce mouton noir, en principe, et il va en faire un énorme manteau comme ça, très lourd, avec de longs poils, avec un côté très rustique. On se croirait presque au Tibet. Ils ont des têtes très marquées, ils mesurent à peine 1m50 de hauteur. Ils ont quelque chose de très dur dans leur apparence, de très dramatique, je dirais. Et puis dès qu'il fait un peu plus beau, à partir de 9-10 heures, lorsque le soleil sort, on enlève la première couche et dessous il y a un autre manteau, et celui-là il va être de laine blanche. Aujourd'hui les jeunes les serrent avec une ceinture de cow-boy parce qu'ils montent sur des camions et ils ne vont plus forcément à pied. Sur un camion, quand ça souffle, bien vous prenez le sarap en plein visage. C'est plus agréable de le mettre avec une grosse ceinture. On commence à porter des blue jeans. Avant, ils portaient des simples pantalons de cotonnade.
C'est devenu des cow-boys.
Avec des mollets très marqués, nus, et puis au pied de simples sandales qu'ils font eux-mêmes et que souvent ils exportent dans les tribus voisines. Il y a quelque chose de touchant, je n'ai pas décrit, si vous voulez, le paysage et l'endroit, mais avec ces quelques éléments, on voit déjà cette âpreté très particulière. Les femmes aujourd'hui sont en bleu, elles ont déjà enlevé leur dessus de laine noire, il y a des pompons de couleur un peu partout, elles ont des cheveux marqués de la même manière, elles portent un châle toujours de laine noire et grossière avec quelques petites broderies, et dessous elles ont une chemise bleue. Tiens, la fête pourrait commencer, il y a du bleu partout. To make
sommes au Mexique, nous sommes dans le village de Chamula, dans un autre monde, un monde indien. Décrivez-moi le village de Chamula.
Alors, je vais le décrire en touriste, parce que quand on part de San Cristobal, on est dans son petit confort avec sa cheminée le soir parce que l'air est frais.
C'est vrai que San Cristobal, c'est pas très loin.
C'est à 10 kilomètres. C'est à 10 kilomètres et on est dans notre monde. C'est-à-dire, il y a le petit restaurant du coin, la petite boîte. C'est un peu l'ambiance de nos stations d'hiver avec un petit rien d'exotique, avec la petite pariada dans un coin pour se griller quelque chose, des gens amicaux. Et puis, justement, ce marché que j'évoquais tout à l'heure où se réunissent ces 60 communautés. C'est-à-dire, dans la rue, vous avez le métis et la femme métisse qui va faire son marché, elle a l'air de rien, mais elle a son petit tablier, mais finalement elle tient l'économie de toute la ville et elle peut être quelqu'un de terriblement rapace, si j'ose dire. Alors elle va monnayer, elle va en fait violer tout Indien qui arrive sur le marché et qui lui est démuni parce que il ne connaissait pas l'argent il y a quelques années, il fonctionnait avec du troc et puis là on va lui acheter ses oranges s'il est d'une terre plus chaude, on va lui acheter ses œufs s'il vient de Chamula ou sa laine même, et il y aura des échanges bien sûr, mais ces échanges, on a toujours l'impression que l'Indien est perdant. C'est quelque chose de dramatique quand on voit un marché où l'Indien est assis par terre avec son petit tas de tomates, ses quelques pommes de terre, on se dit qu'effectivement on est en train de gruger à quelque part. Avant d'avoir commencé l'acte d'achat ou de vente, on sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Dans la rue de Guadalupe, à San Cristobal, il y a des boutiques partout pour nous, justement pour les touristes, où on va pour acheter un chapeau de Chamula ou le sarap de service ou le costume de tel endroit. On voit ces Indiens qui longent ces vitrines, qui n'osent même pas rentrer, ce n'est pas leur monde, ils ne parlent pas forcément bien l'espagnol. Les femmes ne parlent en général que tzotzil ou tzeltal, enfin les langues les plus mayas et les plus connues de l'endroit. Ce sont des groupes ethniques énormes, mais chaque communauté est en même temps une entité en soi. Ils sont tous étrangers les uns des autres. Ils ne savent même pas qu'ils forment un fantastique bloc. Il n'y a eu que les moments révolutionnaires où ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas seulement 100 000 comme aujourd'hui à Chamula, mais qu'ils étaient peut-être 300 ou 400 000 et qu'ils avaient un pouvoir absolu sur ces 30 ou 40 000 habitants qui, eux, ne détiennent que ce petit pouvoir économique, mais qu'ils le tiennent en main de façon fantastique, tout comme ceux qui vivent en bas dans les terres chaudes, parce que la Sierra Madre, ça plonge d'un seul coup sur le Pacifique. Et là, dans les plaines, vous avez des hectares, des kilomètres carrés de caféiers et de cultures tropicale, et on va profiter de l'Indien pour lui demander de venir travailler quelques mois ou quelques semaines par année, et on va l'accrocher, on dit enganche, ça veut dire vraiment le prendre à l'hameçon, le prendre au crochet pour essayer de l'attraper, et on lui donne un peu d'argent le soir d'une fête quand il est bien saoul, et on l'engage de façon tout à fait malsaine, et il peut même rentrer chez lui après avoir travaillé et rentrer avec moins d'argent qu'en partant, parce qu'on va l'endetter sur place, on va l'obliger à acheter tous ses produits et surtout l'alcool dans le magasin de l'hacienda ou de la propriété terrienne. Et là, à San Cristobal, on sent déjà ces tensions très étranges, même si on a cette impression de confort. Et puis ensuite, on prend la petite camionnette ou quoi que ce soit et on va à Chamula. Et quand on arrive devant Chamula, on passe la dernière colline, on voit des croix partout, des grandes croix bleues, qui sont par trois en général et qui représentent plutôt le maïs, parce qu'on voit qu'il y a des motifs végétaux qui ont été gravés sur ces énormes croix, on se dirait à Golgotha, et on voit bien qu'elles marquent une frontière. Comme ça, il y a plusieurs zones concentriques frontières et sacrées, et petit à petit on passe la colline et tout à coup on voit une église complètement démolie sur la droite, et avec un cimetière où il n'y a que des planches et des toutes petites croix, et tout a l'air un peu abandonné, et cette église est complètement abandonnée. Et puis en bas, on voit l'église de Saint-Jean. Là, on est à Saint-Sébastien, il y a tout l'idée double, on en reparlera, c'est-à-dire cette espèce de mélange curieux. Il y a toujours un petit et un grand. Il y a d'ailleurs deux grands quartiers qui se contrebalancent avec deux petits ensemble et un grand plus grand, avec Saint-Jean-Baptiste, avec Saint-Pierre, avec Saint-Sébastien, trois saints qui forment une communauté qui est en fait un et un, c'est-à-dire demi et demi si vous préférez. Et vous arrivez devant cette église après avoir glissé dans cette rue qui est à la fois pavée et boueuse, ou avec ou sans pavement, et là immédiatement vous vous sentez mal à l'aise parce que le Chamula est farouche et qu'en même temps il est capable d'être très agressif, et si en plus il a un tout petit verre dans le nez, ce que l'Européen ou en tout cas l'Espagnol lui a bien appris à boire, eh bien il devient effectivement même agressif au point qu'on doit s'en méfier. Alors on vous a bien dit en partant de San Cristobal, dès que vous arrivez sur la Grand Place, vous allez vous adresser à droite et vous verrez qu'il y a une sorte de policier, enfin en tout cas de bureau, on va vous accueillir, on vous donne un ticket aujourd'hui, on vous donne carrément un ticket, vous devez signer, vous devez dire combien vous êtes, et puis immédiatement on vous met à disposition ou voire deux jeunes qui ont moins de 20 ans.
Surtout ne pas s'adresser aux Indiens, c'est ça?
Ah non, mais je veux dire par là que vous êtes obligé d'être pris en charge. Ah, et que vous devez vous adresser au contraire à l'autorité indienne. Et à partir de là, ces deux jeunes qui portent un énorme bâton noir extrêmement solide à la ceinture ou dans la main avec une simple lanière de cuir sont vraiment des policiers du coin. Ils surveillent toute la communauté, ils ont une charge comme cela pendant une année. Ils vont travailler en dehors de leur famille. Ils donnent cela à la communauté, comme toutes les charges sont d'ailleurs des charges gratuites qui durent une année. Et puis ils vont vous accompagner dans l'église. Qui est la visite absolue du touriste. Mmh. Et là, il y a un moment de choc intense. D'abord, il y a un patio qui est devant l'église. On retrouve de nouveau des croix de couleur bleue et vert turquoise. Et puis, il y a un petit kiosque au centre qui sert pour la musique uniquement pendant les fêtes. C'est un petit rappel un peu colonial et pourtant c'est indien. Le patio est bien fermé avec des murs. On sent qu'on n'a vraiment qu'une forme d'entrée. Et puis, on découvre le portique de l'église qui, lui, est peint en vert, en rouge, en bleu, avec des couleurs insensées, avec des grosses fleurs. Et l'ensemble est peint en blanc avec un rien de bleu ciel et au moment où vous passez la porte, ça je pense que c'est un des plus gros chocs touristiques que l'on ressent au Mexique. Si vous tombez sur un moment intense, mais tous les jours sont intenses à Chamula, n'oubliez pas qu'ils sont 100 000 et qu'il n'y a qu'une seule église. Et les Indiens aimeraient passer en tout cas 30% de leur temps en prière. Et vous entrez dans l'église et tout à coup, c'est l'impression qu'on a lorsqu'on s'approche d'une ruche ou d'un essaim, un bourdonnement. Il parle très doucement.
C'est une grande église, donc.
Et c'est une nef immense, mais nue, sans meubles, sans rien. Je veux dire par là que sur le sol, on a refait le pavement qui était auparavant simplement en terre battue. Et il y a eu d'ailleurs des conflits politiques, y compris avec le patrimoine national, etc. C'est une église assez extraordinaire. Et les Indiens ont voulu mettre des vrais cattels de salles de bain de couleurs violentes, comme ça, sur le sol, bien, bien brillantes, bien lisses. Et ils ont fini par les mettre, parce qu'après tout, ils sont chez eux et ils gèrent leur monde, leur dieu et leur formule. Il n'y a plus de prêtres dans cette église depuis la Révolution. Ils gèrent eux-mêmes l'église, elle appartient à la communauté et aux autorités religieuses indiennes.
Donc on n'y fait que 10 prières dans cette église.
Il n'y a que les Indiens. Mmh. C'est-à-dire que si exceptionnellement un prêtre vient, il n'est même pas catholique, parce que les catholiques refusent de baptiser des gens qui n'ont pas suivi le catéchisme normal, donc c'est un prêtre orthodoxe qui vient spécialement là. Il n'y en a pas beaucoup au Mexique, mais il y en a toujours un pour baptiser les Indiens, parce qu'ils aiment ça, c'est l'idée de l'arrosage, c'est l'idée de pousser comme un grain de maïs. Et vous pénétrez là-dedans. Il y a quelques échafaudages en pagaille. Il y a un endroit où on laissait même les saints qui ne servaient plus, qu'on avait dénudés, qui étaient des statues complètement brisées. On les cassait même. On a eu une certaine violence contre les saints qui n'obéissent pas. Et le milieu est complètement vide. Il n'y a que ces cattels. Mais sur ces cattels, il y a un tapis odorant de longues aiguilles de pin. Le pin Montezuma a des aiguilles qui font pratiquement 15 à 20 cm de longueur. Un vrai tapis vert avec cette odeur étrange de la résine. Et puis surtout le copal. L'encens indien qui vous monte immédiatement au nez et une lumière extraordinaire. Les fenêtres sont presque nulles comme apparence. La lumière filtrée est un peu blanchâtre comme cela. Mais la première chose que vous remarquez, c'est le tapis de cierge qui se trouve par terre. Ces petites bougies de couleur, chaque couleur signifiant quelque chose par rapport à la maladie, par rapport aux choses qu'on va demander. Et puis vous avez ces familles entières, toujours dans leur habit foncé ou leur habit blanc de tout à l'heure. Les femmes qui se sont un peu dévêtues avec leurs chemises bleues, un peu brodés, les enfants qui marmaillent autour. Il y a une vie très intense, chacun vit comme il le veut, chaque famille est collée à une autre famille, au sol, par terre carrément, une bouteille de Pepsi Cola juste à côté parce que c'est l'offrande la plus remarquable pour les dieux, une bouteille d'alcool, quelques grains de maïs s'il le fallait parce que c'est la nouvelle saison. Toutes ces offrandes arrivent et puis il y a surtout ce murmure. Cette prière continue. Le maya est une langue très douce, elle ne s'arrête pas. Exactement comme la musique qui vibre, on a l'impression de cette notion de moulin à prière, très doux, comme ça. Ils sont peut-être 100, 200, 1 millier, parfois 100 000 lors des grandes fêtes, ou en tout cas 40 000 pour les fêtes importantes, et ils prient tous quelques heures par jour dans cette église.
Violence, but nothing ever tears from a star, like tears from a star.
Nous sommes dans l'église de Cholula, la seule église du village.
De Chamula.
De Chamula.
Cholula, ce sont les grandes pyramides du nord. Mais c'est normal, on confond les noms.
C'est vrai.
Chamula, San Juan, Chamula, bien sûr que le saint principal, ce sera Saint Jean-Baptiste avec son mouton. Alors, c'est étrange parce que, pour montrer à quel point l'intimité avec le sacré existe chez l'indigène, c'est surtout le fait de se rendre compte que ce Saint Jean qui porte un mouton leur a offert la laine, bien sûr, et toute leur vie est entourée de laine, avec ce côté rugueux, avec ce côté un peu dramatique que j'évoquais tout à l'heure. Mais c'est surtout le fait que, après tout, quand on vous a offert cet agneau comme ça, comme on le ferait presque de façon christique ou biblique, ben en même temps, on respecte l'animal. Or, ce serait intéressant qu'un chamoula puisse manger ces milliers de moutons qui sont autour de lui. Bien non, il les laisse vieillir, il les laisse mourir de vieillesse. Jamais on n'a tué un mouton à chamoula. Il y a un respect extraordinaire pour cet animal. Et finalement, leur diète, elle s'arrête à quelques éléments qu'on retrouve à l'intérieur de l'église au moment des offrandes. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est de voir le mouvement lent. Je parlais du murmure, je parlais de ce côté ruche, de cette espèce de fourmillement étrange. Mmh. Ce qui est le plus impressionnant, c'est lorsqu'une famille qui va prier pendant une heure ou deux, la prière n'est qu'une sorte de répétition constante pour être sûr d'avoir fait le tour de l'univers mental de l'indigène, et il s'adresse en même temps à tous les saints qui sont autour de lui, parce que j'ai dit que l'église était nue, mais les saints sont collés contre les parois, ils sont simplement suspendus par une petite tablette de bois, et ce qui est impressionnant, c'est que chacun de ces saints est un Indien. Tout à l'heure, Saint Jean,
les saints à l'image des Indiens.
Non seulement à l'image, mais ils sont habillés à l'indienne. Ils portent même les éléments indigènes sur eux. C'est-à-dire qu'ils ont, par exemple, chaque fois qu'on passe d'un saint à un autre, par exemple, on est étonné de voir la famille qui se prosterne, qui remet les bougies, qui recommence tout à zéro, et qui finalement s'adresse à ce saint en disant, tiens, écoute, tu vas m'aider pour mes poulets, parce que c'est toi qui t'en occupes, tu vas m'aider pour mon maïs, parce que c'est ton travail, tu vas m'aider pour ma famille, parce que ma fille est malade. Et chacun des saints a des charges aussi, c'est-à-dire une sorte de travail intense qui fait que finalement ils doivent répondre à la demande de l'Indien. Alors ce qui est intéressant, Frédéric, c'est que tout à coup, dans la façon de parler, on sent que l'indigène se fâche. C'est-à-dire que le ton est monté et là il commence à bouger.
C'est plus une prière là.
Non, c'est carrément une
vindicte.
Une vindicte, mais une réplique aussi. C'est-à-dire que le saint étant vivant, lui-même étant vivant, il s'adresse comme je m'adresserai à vous maintenant. Je dis, écoutez, j'aimerais avoir de l'eau, j'aimerais avoir ceci, j'aimerais avoir cela, je n'en ai pas, ça ne fonctionne pas. Et il y a un moment de violence qui s'installe. Et les moments les plus impressionnants, c'est lorsque, de façon presque communautaire, on se rend compte qu'un saint ne sert plus, ne fonctionne plus, qu'il n'offre pas ce qu'on attend. Et bien à ce moment-là, on le déshabille et on est capable de lui casser un bras ou éventuellement de le mettre de côté et carrément de le mettre au rancard, c'est-à-dire de le rendre inutile. Cette image ne sert plus. Alors ça, c'est bien sûr le côté très précolombien qui ressort. Il n'y a rien de chrétien là-derrière, mais c'est quand on voit les charges et la raison. Je parlais de Saint Jean-Baptiste par rapport au mouton, c'est la nature même du côté biblique et christique qui le fait. Mais en l'occurrence, l'interprétation devient complètement différente. Alors, quand on replace l'endroit où nous sommes, on se dit « je suis dans une ruche ». Bien sûr, je suis dans le centre du monde. Mais à partir de là, on voit tout à coup la place se dessiner. On appelle ça le teklum chez un Indien, c'est-à-dire c'est le nombril, c'est le centre du monde, c'est le lieu sacré. Or dans le lieu sacré, il y a le côté religieux, il y a le côté civil, et puis il y aura naturellement le côté économique aussi. C'est-à-dire toute la réunion de ces 100 000 personnes va se retrouver de façon presque respiratoire sur cet endroit plusieurs fois par semaine s'il y a de grandes fêtes, ou en tout cas une fois par semaine pour des raisons de marché. Alors ça c'est fabuleux aussi de voir cette place qui était complètement vide se remplir tout à coup avec toutes les Indiennes et tous les Indiens qui sont réunis là et qui commencent non plus alors là, à parler d'argent ou à fonctionner avec de l'argent, mais à fonctionner avec le silence, c'est-à-dire le troc, le temps et l'espace étant totalement différents d'une autre. Alors vous pouvez venir avec un petit produit de votre lointaine campagne, parce que j'ai parlé de Chamula, là vous venez d'observer le centre du village, il y a l'endroit de la municipalité, il y aura les autorités, une petite école éventuellement à côté, cette église sans prêtre, mais quand vous partez autour, et bien tout à coup vous voyez les premières huttes. Alors ce sont des huttes absolument fabuleuses, parce qu'elles sont tout à fait comme on les imagine dans notre enfance, c'est-à-dire une hutte faite de pisés, tout simplement, avec une seule entrée, aucune fenêtre, comme un temple maya, on a souvent parlé, cette espèce d'obscurité volontaire, mm-hmm. avec un foyer central, et puis tant pis, la fumée monte, elle va où elle veut, en l'occurrence comme le toit lui-même est fait en chaume, cette fumée va traverser le chaume, et on les voit comme une sorte, le matin par exemple, c'est assez fabuleux, les femmes se lèvent à 4 heures pour... préparer les tortillas et qu'on entend le bruit de batte comme ça, vous savez, elles ont préparé leur pâte, le maïs a cuit pendant 4 heures, elles le transforment en pâte sur leur métate, c'est-à-dire en l'écrasant comme ça avec le grand rouleau de pierre sur le fond du comment est-ce qu'on appelle ça, le broyeur si vous voulez, et puis ensuite naturellement avec cette pâte elles commencent à taper des mains, elles font une galette parfaite qu'elles déposent très délicatement sur le feu. On a mis un comal en terre sur 3 pierres et avec le foyer central qui chauffe depuis 3-4 heures du matin, et en l'occurrence elle va en faire plusieurs kilos, et à cette heure-là bien sûr la fumée monte à travers ce chaume et vous avez cette impression de voir toutes ces huttes avec cette espèce de brume comme ça qui effleure le toit, qui monte doucement. Alors, vous allez me dire, bien sûr le premier ethnologue de service, sa première idée c'est de mettre une cheminée et dire écoutez arrêtez de vous empoisonner là-dedans, on respire plus, c'est vrai qu'on étouffe avec une fumée, essayez d'imaginer, je sais pas où vous entendez maintenant votre poste, mais en l'occurrence faites un feu au milieu de votre voiture, faites un feu au milieu de votre salon, vous verrez l'effet, et c'est un peu ça. Mais bizarrement, cette fumée sert à protéger le toit de chaume parce qu'il y a des insectes partout, et si on a mis une cheminée, comme l'aurait voulu le premier anthropologue de service, eh bien le toit vous tombe sur la tête au bout de quelques semaines. Alors, ce qui est impressionnant par rapport à ce qu'on voit autour de nous, c'est que maintenant je suis dans le centre, j'ai mis des huttes autour. Alors ces huttes, ce ne sont pas des huttes du village de Tchamoula. Je veux dire par là que ce n'est pas un village qui fonctionne comme un village. Dans ces huttes, il n'y a pratiquement que des autorités. Vous m'avez saisi tout à l'heure, on était avec deux policiers qui nous accompagnaient dans l'église. En fait, pour 100 000 habitants, il y a ces ensembles d'autorités religieuses ou civiles, ils se réunissent dans le centre pour une année, ils doivent même s'expatrier pour une année, parce que Tchamoula, ça n'est pas ce village visible et physique qui fait peut-être 1000 habitants au jour le jour, mais ce sont les 90 000 habitants qui sont autour et qui eux sont répartis. Prenez quelques grains de maïs dans la main, vous les jetez sur la Sierra Madre, et chaque fois qu'un grain tombe, vous avez une petite hutte ou deux ou trois petites huttes ensemble, et vous pouvez faire ça sur des dizaines de kilomètres à la ronde sur tous les sommets. Et ça, c'est une impression étrange de savoir qu'on est à la fois dans une communauté complètement parsemée ou clairsemée, et qu'en même temps, on n'a qu'un cœur qui vibre, qu'un seul centre, un seul carré magique qui est là. Avec son église, avec son teklom, avec son marché, tout le fonctionnement est ici le moteur, et maintenant vous fermez le tout avec un plus grand carré, vous mettez une grande montagne qui est le sommet, le Tsartewitz, qui est vraiment la montagne sacrée du Tchamoula, et là vous comprenez que vous venez de découper mentalement une véritable pyramide qui monte vers le ciel. Le sommet de la montagne, c'est le sommet du ciel, c'est le sommet de la communauté Tchamoula.
Oh,
Nous sommes au centre du village, au centre du monde. Décrivez-moi un petit peu le...
Oh, quand on dit centre du monde, c'est vraiment une chose totalement précolombienne. J'ai envie de créer le cinquième point par rapport au carré et aux quatre angles. Mais l'intérieur de l'église, c'est l'endroit le plus sacré, donc c'est aussi l'endroit le plus privé, le plus chaleureux. C'est l'endroit où ce cœur bat pour chaque chamoula. On ne sait pas encore ce qu'ils ont dans leur tête. On les voit seulement murmurer, on les écoute, on les regarde, on est curieux, on est l'étranger absolu. Et par exemple, quand vous avez reçu votre ticket, il est bien noté dessus que vous avez l'interdiction formelle de prendre des photos et d'intervenir de quelque manière que ce soit dans les rituels. Parce que pour l'Indien, c'est d'abord un vol, c'est un viol. Vous allez partir avec quelque chose. Imaginez-vous que chaque instant qui passe, on vous arrache un morceau de votre cœur et qu'on parte avec ce morceau de viande sanguinolent et qu'on le ramène à l'étranger, c'est-à-dire en dehors du village de Chamula. Je prends une image un peu cruelle, mais c'est un peu comme si on leur arrachait quelque chose chaque fois qu'on prend une photo. Or, à l'intérieur de l'église, c'est totalement interdit pour ces raisons-là, parce que chaque fois que vous prenez une photo, vous avez l'image de la personne, de la famille, du cierge, du saint, des choses sacrées qui sont là, de ces moments sacrés, de ce présent sacré, et vous allez partir avec ce présent, vous allez être possesseur. Quand on verra ce qu'ils ont dans leur tête, tout est possédé et possédant. Chaque chose peut appartenir à quelqu'un, un sorcier a tous les pouvoirs sur quelqu'un d'autre. Alors vous êtes une sorte de sorcier extérieur. Mais je vais vous donner une autre image qui est très intéressante. Quand on est chamoula, on est un homme véritable. Donc on sait qu'on est formé par la divinité principale qui serait Saint Jean, par exemple. Je viens de prendre des petits cailloux, je les ai transformés en chamoula. Mais en même temps, quand on est au centre du monde comme ça, quand on considère les autres groupes qui sont étrangers et à l'extérieur, eh bien, il y a des choses curieuses. Quand un Lacandon imagine, par exemple, la jungle qui existe du côté de l'Est, on descend de la Sierra Madre, on se retrouve en plein dans la grande jungle qui va jusqu'au Guatemala, vous pouvez aller à Yaxchilán, à Bonampak, à Tikal, et c'est une vraie jungle épaisse avec des rivières énormes comme le Sumacinta. Eh bien, quand le Chamula pense à un Lacandon, qui est cet Indien encore plus, je dirais, qui a été en tout cas plus primitif, parce qu'il a vécu dans la jungle pendant 400 ans sans qu'on le christianise, sans qu'on le connaisse, avec ses longues robes d'écorce et ses rituels encore plus mayas que les leurs, eh bien pour eux ce sont des mâches. Un mâche, ça signifie singe. Ce sont des hommes singes, ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec l'humanité. Et quand ils pensent à ceux qui vivent du côté du Soconusco, où ils vont travailler dans les plantations de canne à sucre ou de cacao ou de café dont je parlais tout à l'heure, eh bien ils les considèrent comme des démons, comme des diables. Donc ce ne sont plus des êtres humains. Alors imaginez ce que vous êtes, vous, comme étranger, avec votre anorak, parce qu'on est à 2000 mètres, vos couleurs un peu flamboyantes, avec votre façon de marcher dans vos baskets et puis de tenir votre appareil en bandoulière. Je vous assure que quand vous rentrez à Chamula, vous le cachez, on vous demande de le cacher, parce qu'au pire, j'ai vu des drames pendant les fêtes où par inconscience, quelqu'un sortait un appareil ou faisait le geste de photographier. Non seulement parfois on prend le film et on l'enlève de l'appareil, mais j'ai vu les bâtons fonctionner et ça fait très 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 mal. Hein. Je veux dire par là que si vous êtes à l'intérieur de l'église seul et que le drame commence, vous avez 100 000 personnes et vous êtes seul. Vous êtes effectivement l'étranger, le petit singe de service, comme un petit cerf ou un petit lapin, absolument. Mais en l'occurrence, si vous voulez parler du centre en tant que tel, je vous dirais qu'on a vu les édifices publics qui sont construits là et qui sont entretenus uniquement par le travail communautaire. Et là, on commence à penser indien, on commence à penser maya. Et vous avez au nord cette église que j'ai située, mais vous avez l'atrium, ça on l'a vu, qui est flanqué d'un presbytère qui d'ailleurs est totalement abandonné et ne sert plus vraiment. Et puis, il y a alors, autant à l'est qu'à l'ouest, là je parle vraiment des points cardinaux, vous avez le secrétariat municipal, on y a passé tout à l'heure pour prendre son billet, vous avez la prison, ça c'est fabuleux parce que dès qu'on a trop bu, on est enfermé pour quelques heures. Même si vous avez fait une erreur, on va pouvoir vous enfermer, pourquoi pas, l'histoire de la photo, on vous prend, c'est le policier, paf, on vous met derrière les grilles, vous êtes visible de l'extérieur, mais vous avez votre petit tapis d'aiguille de pin s'il faut, mais enfin, vous êtes en prison quand même pour quelques instants, quelques jours, s'il faut vraiment poser ça.
Suivant la faute.
C'est surtout pour les cuites que ça peut durer un peu plus longtemps. Et en l'occurrence, vous avez alors le cabildo, c'est-à-dire la municipalité elle-même, où sont entreposées la chose peut-être la plus sacrée sur le plan civil ou religieux. Ce sont donc les bâtons de commandement, ces bâtons qui s'appellent des varas, c'est le mot espagnol qui était déjà existant en Espagne. Ce sont des bâtons de bois précieux avec des pommeaux d'argent comme ceci, et on porte même un mouchoir. C'est pour montrer à quel point c'est sacré. On met un petit mouchoir, vous savez, ces petits mouchoirs mexicains, là, ces bananas de couleurs vives autour, et l'Indien refuse de toucher ce bâton qui a été sacralisé le 1er janvier lors des grandes fêtes de la passation des pouvoirs, lorsque Saint-Sébastien, Saint-Pierre ou Saint-Jean-Baptiste aura vraiment donné son pouvoir à ces bâtons. Et là, vous avez carrément devant vous le début d'une hiérarchie absolue. Et puis au sud, ben, vous aurez des baraques avec des négoces. Alors là, vous allez pouvoir acheter un peu d'alcool, c'est vrai, du tabac, des denrées alimentaires, tout ce qui est de première nécessité. Mais ce qui est curieux, c'est que c'est toujours tenu par des ladinos. Et quand je dis ladinos, c'est vraiment le mot qui veut dire étranger. Donc ce sont des métis, des gens de l'extérieur, des gens qui s'habillent comme vous et moi, qui fonctionnent différemment avec une autre économie. Donc les Indiens les invitent à faire du commerce chez eux, parce que pour eux, ce commerce-là ne doit pas exister. C'est-à-dire que leur système de valeurs et leur économie sont faites que sur l'idée communautaire et les échanges. Dépensons tout, accumulons tout, dépensons tout, c'est une sorte d'aller et venue, mais là, le ladino achète et vend, il fait notre commerce, pas celui des Indiens. Tous ces édifices, j'avoue qu'on a petit à petit créé une sorte de grand carré. Et il y a justement au centre une croix. Une croix qu'ils appellent d'ailleurs le Saint-Arbre. Alors là, on a l'impression d'être sur un site précolombien avec, je sais pas, une stèle ou certains de ces éléments qui sont plantés en plein cœur. L'arbre sacré, il tend ses bras en direction du levant et du couchant. Et puis cette croix, elle substitue ou elle est en substitution de ce fameux arbre sacré que les Mayas des terres chaudes avaient toujours au centre du village, qui est la fameuse ceiba, un fromager absolument géant et qui remplissait d'ombre toute la place et qui permettait à la fois le marché, mais surtout la cohésion, le groupe qui pouvait se retrouver.
Justement, laquelle fonction cette croix, cette harpe sacrée?
Alors cette croix, c'est vraiment pour marquer le cœur, le centre du monde que j'évoquais tout à l'heure, mmh. et elle indique véritablement le nombril de la communauté, et pour tout le monde, c'est le centre parfait. Alors il n'y a qu'à faire des carrés concentriques et puis d'évoluer comme ça vers l'extérieur pour comprendre petit à petit que cette esplanade, ce teclum qu'on a aussi utilisé pour le marché, ben, il n'y aura pas seulement le marché hebdomadaire, mais il y aura toutes les grandes fêtes du calendrier qu'on essaiera de décrire pour comprendre un peu ce qui se passe dans la tête de l'Indien, et puis de comprendre peut-être même comment politiquement, finalement, à travers son histoire, ses 400 ans de colonie, et l'actualité, le présent, le drame d'aujourd'hui, ces gens-là sont déchirés entre deux mondes, et il y a des réactions extrêmement vives, puisque chaque jour qui passe, ils sont un peu plus pauvres et un peu plus nombreux, donc c'est normal qu'il y ait quelques réactions. Mais en l'occurrence, si on voit cet endroit rituel, eh bien, c'est là aussi où par exemple, du lever au coucher du soleil, vont se retrouver. Alors là, ils attendent avec leurs superbes chapeaux, avec leurs costumes enrubannés. C'est là que vont rester toute l'année, jour après jour, les fameuses autorités, enfin ces autorités communautaires qui sont admises comme ça pour une année et qui sont, je dirais, élues, non seulement élues, mais peut-être même mises sur une liste. Enfin, vous pouvez porter candidature afin de monter petit à petit, depuis le premier policier jusqu'au dernier poste, les échelons de cette société extrêmement étrange et extrêmement rigoureuse. Alors, il y a une histoire assez incroyable qui nous évoque pratiquement toute la vie des Indiens de Chamula. C'est un livre qui existe d'ailleurs en français et qui s'appelle Juan Pérez Rolote. Juan Pérez, c'est un nom bien espagnol. Il s'appelle Juan parce qu'il habite à San Juan Chamula. Pérez, c'est le nom de famille le plus fréquent à Chamula. Il y a des milliers de Pérez Pérez. Il y a même des Pérez 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 parce qu'on ne sait plus très bien qui est le Pérez de qui. Et puis, Rolote, ça veut dire dindon. Donc, il porte le nom d'un animal. C'est-à-dire que tous ont un double. On verra des choses très étranges lors de notre prochaine rencontre à Chamula parce qu'on peut y rester pendant quelques heures, je vous assure. Et le livre s'appelle Tzotzil, c'est le nom de cette communauté, ou plus exactement la langue et je dirais même la race indigène qui correspond à Chamula. Et c'est le récit de la vie d'un Indien mexicain qui a été recueilli dans les années 50 par Ricardo Posas. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'on comprend qu'à l'instant où on sort de la communauté, lui a été vendu. Ce garçon. Il a été battu par son père qui buvait. Il est sorti et au début du siècle, il a vécu la révolution mexicaine et un jour, il a voulu revenir à Chamula. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a dû attendre pratiquement 10 ans pour être de nouveau Chamula. Il a dû reprendre tous les échelons depuis le baptême jusqu'à son mariage, jusqu'à ses premières charges, afin de redevenir Chamula. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quelqu'un qui était sorti du monde Chamula, et qui a vécu toutes les aventures possibles, y compris l'amour, on en parlera peut-être, quand il a rencontré Marina Cocorina, eh bien cet homme tout à coup s'est dit « je veux redevenir un homme véritable ». Il est revenu après plusieurs années dans son bercail, même s'il a dû, au prix d'un sacrifice énorme, redevenir un homme vrai. Et c'est fabuleux de voir comment sa vie se déroule et comment elle se termine. On dirait le portrait de son père, il a un enfant, il boit, il est monté dans les charges, il vit vraiment comme tous les Chamula, désire vivre, en homme véritable, mais surtout dans un carcan très étrange, avec des visions du monde comme il les a eues sur l'extérieur, mais une conscience que ce qu'il a là, à l'intérieur, ce cœur, ce centre, c'est quelque chose de définitif et que les frontières s'arrêtent dès qu'on a passé les croix de couleur.
Et dimanche prochain, on restera à Chamula.
On reviendra à Chamula simplement pour pénétrer dans la tête des Chamula et essayer de comprendre un peu le mécanisme de ces Indiens mayas des Chiapas, la région de San Cristobal.